Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, le premier sommet de la jeunesse sur le climat aura lieu samedi prochain à New York et une jeune militante suisse fait partie des participants. À Genève, devant le Conseil des droits de l'homme, la commission d'enquête sur le Burundi dénonce la poursuite des violations graves des droits de l'homme dans ce pays. La mission d'enquête sur le Myanmar a elle aussi présenté son rapport devant le Conseil des droits de l'homme et elle dénonce les conditions de vie déplorables des Rohingyas dans ce pays. Et en dossier, le haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, Miguel Ángel Moratinos, nous explique comment a été élaboré le plan d'action pour la protection des sites religieux présenté la semaine dernière. La jeune militante suédoise de la lutte contre le changement climatique, Greta Thunberg, sera la vedette du premier sommet de la jeunesse sur le climat organisé par l'ONU samedi prochain à New York. Elle sera accompagnée de 500 autres jeunes militants sud-américains, européens, asiatiques et africains. Parmi eux, une jeune militante suisse, Marie-Claire Graff. Elle a lancé la Semaine de la durabilité, le plus grand mouvement d'action d'étudiants pour le développement durable en Suisse. Elle entend rappeler l'urgence pour la jeune génération. On l'écoute.
Écoutez Ocean, parce que nous avons beaucoup de dire et nous avons des solutions pour combattre le climat et nous avons des solutions pour le sustainable development. Nous avons un projet de la Sustainability Week International. Nous engageons les jeunes pour prendre des actions dans des universités. Pour moi, le plus urgent message est que nous avons dans une catastrophe, une crise climatique, et nous avons accéléré les actions très rapidement.
Aujourd'hui, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, le président de la commission d'enquête sur le Burundi, Doudou Dien, a dénoncé la poursuite des violations graves des droits de l'homme dans ce pays. Ces violations gardent une dimension essentiellement politique et s'inscrivent dans le contexte de la préparation des élections de 2020. Le seul changement noté est une évolution du profil des victimes. On écoute Doudou Dien.
Certes, elles ont continué à viser des personnes considérées comme des opposants au parti au pouvoir, au gouvernement ou au président de la République. Mais la conception de qui est un opposant politique est devenue extrêmement large. En première ligne se trouvent des membres et des sympathisants supposés ou avérés des partis politiques d'opposition. Comme depuis le début de la crise en 2015, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme ont continué à être arrêtés et détenus de manière arbitraire, mais également intimidés, harcelés ou soumis à de mauvais traitements afin de les empêcher de mener à bien leurs activités légitimes. Monsieur le Président, des Burundais qui ont été rapatriés dans le cadre du programme d'appui au retour volontaire depuis la Tanzanie ont fait face à un climat général d'hostilité et de suspicion, notamment de la part des Imbonerakure et des responsables administratifs locaux. Certains d'entre eux ou un membre de leur famille ont été victimes de graves violations des droits de l'homme et ils se sont sentis obligés de fuir à nouveau, car ils avaient peur pour leur sécurité.
La mission d'enquête internationale indépendante sur le Myanmar a elle aussi présenté à Genève son rapport devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle a noté que les conditions de vie des Rohingyas dans le pays sont toujours déplorables et qu'un risque important de génocide pourrait se produire. On écoute Marzuki Darusman, président de la mission d'enquête.
We conclude that there is a strong inference of continued genocidal intent.
Nous concluons qu'il y a une ingérence forte avec des intentions génocidaires de la part de l'État vis-à-vis des Rohingyas. Il y a un risque important de génocide qui pourrait se produire si le Myanmar ne fait pas face à ses obligations au titre de la Convention sur le génocide. Il faut éviter le génocide et il faut mener l'enquête et promulguer des textes de loi qui pénalisent et qui sanctionnent le génocide. Que les choses soient claires, nous avons des politiques, des lois, des institutions qui permettent des opérations de nettoyage. Ce fut le cas en 2016-2017. L'impunité persiste, la discrimination persiste, les discours d'incitation à la haine persistent, la persécution persiste.
Les Nations Unies ont lancé la semaine dernière un plan d'action pour la protection des sites religieux qu'ils ont présenté aux États membres de l'organisation et à leurs partenaires. Un plan qui se veut concret et que tout le monde doit pouvoir s'approprier. Miguel Ángel Moratinos est le haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Au micro de Pascal Sim, il explique comment l'Alliance des civilisations a élaboré ce plan.
La première chose, la plus importante du plan, c'est soulever la conscience de l'opinion publique internationale de l'importance du religieux. de l'importance de protéger des lieux de culte où les citoyens vont se recueillir pour exprimer ses sentiments religieux. Et ça, c'est le premier élément, et que cela, on doit le faire tous ensemble. Dans le plan, il y a des recommandations qui sont dirigées, adressées à Nations Unies, en tant que Nations Unies, les différentes entités qui travaillent pour faire appliquer le plan. Il y a des recommandations aux États membres, au gouvernement, des recommandations assez ciblées pour les leaders religieux, mais aussi pour les médias et pour la société civile et le secteur privé. C'est-à-dire, on essayait que le plan soit assez concret, avec des recommandations claires pour que chacun assume sa responsabilité et que tous ensemble, on réussisse à échapper de ce fléau néfaste, dramatique, tragique qui a touché la Nouvelle-Zélande, qui a touché le Sri Lanka, qui a touché les États-Unis, tous les lieux de culte qui se sont vus attaqués par ces fanatiques.
Le plan propose notamment aux Nations Unies de lancer une campagne de communication mondiale, surtout à destination des jeunes. Pourquoi viser particulièrement ce public-là ?
Parce qu'il faut aller aux racines du problème, et surtout dans les nouvelles générations. À ceux qui vont gérer le monde, qui aussi assument des responsabilités aujourd'hui. Et c'est pour cela que ce plan de communication globale, fondamental pour que chacun, à tous les niveaux, le niveau de l'éducation primaire, mais dans ce plan d'action de communication des Nations Unies, on va essayer que les gens se rendent compte de l'importance de ces lieux saints et de ces lieux de culte, de ce lieu qui réclame la paix et la sécurité. Et je crois que aujourd'hui, il faut sensibiliser, il faut rappeler les gens les choses essentielles. Et cela, c'est une chose, évidemment, que tout le monde est d'accord, que tout le monde essaie de soutenir et appuyer.
Ce plan est le fruit d'un long processus de consultation, à la fois avec les États membres, mais aussi avec des leaders religieux, avec différentes communautés. L'une des suggestions que vous faites, des recommandations, c'est de cartographier les sites religieux. Pourquoi ?
C'était un défi quand le secrétaire général m'a mandaté le 22 mars pour commencer à élaborer le plan. On s'est réunis, on a travaillé. J'imagine que d'autres plans ont fait le même chemin que nous, mais nous, je peux vous assurer qu'on a été assez inclusifs. On a essayé de toucher le plus nombre possible des interlocuteurs pour que le plan puisse être appliqué. C'est pour cela qu'on a mis un certain temps, mais avec beaucoup d'intensité, on a maintenu des contacts, gouvernement, leaders religieux, société civile. Et dans les discussions, une idée nous est venue. Étant donné la nouvelle situation technologique, la capacité qu'on a aujourd'hui de pouvoir identifier tous les sites religieux, j'ai proposé à UNOSAT, qui est l'agence des Nations Unies, la possibilité de cartographier tous les sites religieux. Pourquoi ? Premièrement, pour savoir où sont les sites. Deuxièmement, on fera un breakdown, c'est-à-dire on fera une analyse par secteur, par site d'importance symbolique, historique, sites qui ont été fruits des attentats ou de menaces d'une façon plus courante. Bon, et ça nous donnerait une photo parfaite. Et en même temps, je voulais transmettre à la société internationale, à l'opinion publique internationale, que le phénomène de la spiritualité, de la religiosité, c'est quelque chose de fort. On ne sait pas encore combien de sites vont être identifiés. Mais j'imagine que ça va être un chiffre qui va produire un certain électrochoc. Comment ? On parle de 5 millions, de 10 millions, 100 millions. J'aimerais, avec ce chiffre, réveiller la conscience de la société internationale pour placer l'élément et la dimension spirituelle comme une question à laquelle il faut apporter un temps, un soutien, une réflexion, une action suffisante. Et qu'à mon avis, jusqu'à présent, elle est traitée d'une façon, je dirais, pas trop prioritaire.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info. Retrouvez sur notre page internet, nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.